que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Nous le disions en titre, les quels sont les risques liés aux infections sexuellement transmissibles mal soignées? Nous avons en ligne le docteur Aloïs Ngouma, gynécologue de clinique universitaire de Kinshasa. Les infections sexuellement transmissibles sont fréquentes autant chez l'homme que chez la femme. Ce sont des maladies qui se transmettent lors de rapports sexuels et sont causées par différents types de microbes. D'après les spécialistes, certains de ces infections peuvent aussi se transmettre de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou l'accouchement. C'est le cas du VIH-Sida et de la syphilis. Quels sont donc les risques liés à ces infections sexuellement transmissibles? Professeur Aloïs Ngouma, la première question qui nous vient à l'esprit, on peut d'abord avoir une idée des différents microbes qui causent ces infections sexuellement transmissibles.
Oui, bien sûr. Nous avons parmi les micro-organismes les bactéries, nous avons les parasites et nous avons le virus, dont le virus du sida dont vous venez de parler. Parmi les bactéries, nous avons le gonocoque,
oui,
qui est une bactérie connue depuis longtemps, qui occasionne la gonococcie. Et nous avons l'agent pathogène de la syphilis, les spirochètes. Nous avons l'agent pathogène de la chlamydia, qui donne l'infection à chlamydia. Et ces pathologies, généralement, sont transmises principalement par les rapports sexuels. Il y a d'autres qui sont transmises ici par les rapports sexuels, mais qui ne sont pas nécessairement transmises principalement par les rapports sexuels. Nous avons le staphylocoque qu'on peut avoir, et surtout le staphylocoque épidermidis. Donc, ces bactéries sont transmises principalement à l'occasion des rapports sexuels, qui peuvent être des rapports sexuels hétérogènes, c'est-à-dire entre hommes et femmes, ou même des rapports sexuels parmi les homosexuels,
oui,
c'est-à-dire les personnes du même sexe. Nous avons les virus. Nous avons le virus connu maintenant, c'est le virus de déficience immunitaire acquise.
Donc le virus du VIH-Sida, oui, c'est ça.
Nous avons le virus de l'herpès. Nous avons le virus de l'herpès. Ce sont ces virus-là qui sont les plus connus. Nous avons également ce qu'on appelle le papillomavirus. Le papillomavirus occasionne principalement le cancer du col chez la femme. Et il est établi que ce cancer se transmet par rapport sexuel. C'est ainsi que dans la stratégie de l'éradication de cette pathologie, on est en train de promouvoir le vaccin. Le vaccin qui se donne le mieux avant que la jeune fille n'ait contacté les rapports sexuels. Donc, si la jeune fille n'a jamais été en contact avec les rapports sexuels, elle n'aura pas été, aura été supposée ne pas avoir été en rapport avec le papillomavirus.
Oui.
Et lorsqu'elle est vaccinée et qu'elle aura des rapports sexuels ou elle serait infectée de papillomavirus, elle peut déjà être protégée et ce papillomavirus ne pourra rien faire.
Et
nous avons ce que nous avons appelé les parasites.
Oui.
Les parasites, ce sont soit des mycoses, soit des autres micro-organismes qui ne sont pas nécessairement les bactéries. Et les plus courants, c'est le mycose, dont l'agent pathogène, c'est la candidose, donc le candida albicans. Donc la pathologie, c'est la candidose, le candida albicans. Il est très fréquent. Heureusement qu'il est peu nuisible. Il est embêtant, mais il est peu nuisible. Il y a également le trichomonas. La trichomonase est causée par l'agent pathogène qu'on appelle le trichomonas. Et ce sont des petits micro-organismes qui sont unicellulaires avec des flagelles. Donc, on les identifie très facilement au microscope parce qu'on le voit bouger. Donc, les plus courants que l'on rencontre, ce sont ces micro-organismes-là.
Voilà, on se rend compte, docteur Aloïs, qu'il y a beaucoup, beaucoup de microbes qui sont à l'origine de ces maladies, de ces infections sexuellement transmissibles. Alors, quelles sont, chez nous, en RDC, les maladies sexuellement transmissibles les plus courantes que vous avez à consulter? Qu'est-ce qui vient en première position, si on va de la première position à la dernière?
Oui, en tout cas, la première position, ce sont ces parasites dont je vous ai parlé. Oui. Donc, il y a la candidose qui est très courante. Oui. Que nous observons très, très couramment. Nous avons également la trichomonase que nous observons. La gonococcie, on en a, mais ça commence quand même à se rencontrer de moins en moins, d'autant plus que les gens prennent aisément les antibiotiques. Alors, parfois, elles peuvent être contaminées et en prenant les antibiotiques, bon, directement par automédication, s'ils font cette automédication convenablement, généralement, les bactéries sont tuées. Nous avons le chlamydia trachomatis. Le chlamydia trachomatis, c'est un agent qui n'est pas facile, mais qui n'est pas généralement connu. Et effectivement, c'est cet agent-là qui semble causer beaucoup de problèmes en relation avec l'infertilité. Son diagnostic également est un peu plus difficile. Il faut des moyens un peu plus élaborés parce que au microscope, comme ça, on ne peut pas voir ça facilement. Mais on utilise aisément la sérologie. Donc, le test au niveau du sang et on peut voir les anticorps présents qui peuvent dire que voilà, il y a eu une contamination avec le chlamydia. Alors, c'est un agent pathogène qui peut passer vraiment de manière silencieuse. Et on peut en voir seulement les effets. Et si ça apparaît, généralement, c'est avec des pertes, soit chez l'homme, soit la femme, et des pertes qui semblent ne pas répondre aux autres antibiotiques. Pourtant, c'est un micro-organisme qui est quand même assez fréquent. Et dans la conséquence, c'est quoi? C'est l'obstruction des trompes. Il y a une étude qui est en train de se réaliser au niveau des cliniques universitaires par un des récipiendaires qui va accéder à sa spécialisation et qui a démontré quand même qu'il y a un taux suffisamment élevé de chez les femmes qui consultent pour infertilité, hein, pour sérilité, si vous voulez. Et chez ces femmes-là, on a remarqué quand même une prévalence assez élevée de l'examen positif au test sérologique au chlamydia.
Docteur Aloïs, vous venez d'évoquer à deux reprises l'infertilité. Donc, on peut imaginer que c'est ça l'une de graves conséquences ou bien de risques liés aux infections sexuellement transmissibles de mal soignées.
De toute façon, c'est la conséquence classiquement connue. La conséquence la plus connue des infections sexuellement transmissibles mal soignées, c'est justement cette résistance des microbes qui se créent et les microbes continuent à proliférer et continuent à détruire de manière silencieuse les voies génitales. Chez la femme, c'est principalement les trompes et chez l'homme, c'est principalement l'urètre et à tous les niveaux. Donc, vous avez l'urètre pénien, l'urètre membraneux et l'urètre prostatique.
Voilà. Donc, voilà. Vous êtes intéressé par le sujet. Quels sont les risques liés aux infections sexuellement transmissibles mal soignées? Nous en parlons avec le docteur Aloïs Ngouma, gynécologue à l'Université de Kinshasa. Vous pouvez déjà intervenir. Nous appelons au 081 890 63 94 ou bien vous pouvez également nous envoyer un SMS au 081 711 5001.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Deux auditeurs en ligne, Modeste Mwamba depuis Kananga dans Lukasa Occidental, Alidor Kabanza à Goma dans le Nord Kivu. Modeste, bonjour.
Bonjour monsieur Marcel Gombo-Bala. Et bonjour aux auditeurs de la radio Capé.
On vous écoute. Oui.
Que la radio Capé lance aux auditeurs qui sont sur le territoire national. Comparativement à l'idéologie du sujet du jour, j'ai une préoccupation à poser vers le sujet du jour. La première est la suivante. Nous parlons des infections sexuellement transmissibles et malsaines. Quels sont les partenaires, quel est le partenaire parmi les usagers qui est le, ou quel est le partenaire le plus touché en faisant les rapports sexuels quant au PST dont il est question? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ils nous disent les taux de transmission du mode, les taux du mode de transmission quand on fait les rapports sexuels face aux IST. La troisième préoccupation, il nous donne un peu les plus touchés, les agents les plus touchés quand on fait les rapports sexuels face aux IST. Et quel conseil peut-il donner aux pères, les gens qu'on appelle professionnels de sexe, parce que nous sommes en train de courir les risques d'être frappés face aux IST. Alors, quel conseil peut-il donner aux agents qui sont en train de pratiquer les rapports sexuels pour éviter les IST?
Merci Modeste. Alidor Kabanza, vous êtes à Goma, dans le Nord Kivu. On vous écoute, Alidor.
Oui, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi. Bonjour à tous ceux qui me connaissent. Je suis Alidor Kabanza depuis Goma. Je me reposer quelques des questions intervenant ces moments. À ce qui concerne les maladies, l'infection sexuellement transmissible PNBLO. Nous attendons dire que non, les blénous n'est pas tout juste transmise de l'homme chez la femme par la voie sexuelle. Il peut y avoir d'autres liens qui peuvent faire que la femme ou l'homme puisse avoir le blénou. Comme nous attendons.
Alidor, vous voulez parler de la blénorragie, c'est ça?
Oui.
Quand vous parlez de bléno, vous voulez parler de la blénorragie, c'est ça?
Oui, la blénorragie.
D'accord, allez-y.
On dit que ça doit être transmise de l'homme à la femme par la voie sexuelle. Mais nous entendons parler que la blénorragie peut être encore transmise par la voie de virune une fois la latrine n'est pas propre et quelqu'un est allé faire quelques besoins là-bas, ça peut être une des transmissions. Maintenant, je me redemandais réellement au docteur, est-ce que c'est par la voie-là nous pouvons atteindre la blénorragie ou comment? Ma deuxième préoccupation consiste à le cancer du col chez la femme quand il y a infection. Parce que le cancer du col, c'est la femme peut être soignée ou que si on a atteint le cancer, c'est fini pour la femme, elle ne peut jamais avoir le médicament, ou bien ça peut causer quelques stérilités ou comment? C'est ça ma préoccupation, je vous remercie.
Merci Alidor. Docteur Loïs Ngouma.
Oui, j'ai saisi certaines questions, d'autres je n'ai pas tout à fait bien entendu, si vous pouvez me les rappeler.
Voilà, il y a d'abord Modeste qui a appelé de Kananga, qui voulait savoir entre les deux partenaires, le partenaire masculin, féminin, qui est le plus touché par rapport à lorsqu'on a des rapports sexuels, et puis le mode de transmission de ces maladies.
Ok. Bon, pour la première question, les deux sexes sont exposés. Mais l'apparition de la pathologie peut varier d'un sexe à un autre. Par exemple, pour la gonococcie ou la blénorragie.
Oui.
Quand les rapports sexuels sont contactés, le partenaire mâle ressent la pathologie le plus vite. Parce que les réactions au niveau de voie génitale, notamment au niveau de l'urètre, qui sert en même temps de voie urinaire, est rapide. Donc nous avons une réaction rapide au niveau de l'urètre et au moment où l'homme va uriner, va faire pipi, il va ressentir déjà les douleurs qui sont dues aux réactions que suscite le gonocoque. Donc le gonocoque détruit déjà certaines cellules et met à nu certaines structures au niveau de l'urètre, ce qui fait que l'urètre est irrité et ça fait mal. Donc, 3 jours en moyenne après que l'homme ait contracté la gonococcie, il ressent ça directement. Tandis que la femme qui a ça dans ses voies génitales qui sont plus larges ne ressent pas ça. C'est comme ça ne cause pas non plus beaucoup de pertes blanches au début, donc la femme ne ressent presque rien du tout. C'est plus tard, même plusieurs mois, voire même des années, que les conséquences vont apparaître et la femme va commencer à sentir la douleur. Donc, être plus touchée, ça détend. Et c'est comme ça que la femme peut constituer aisément le réservoir de la gonococcie. Aisément. Tandis que l'homme, c'est difficile qu'il en constitue le réservoir. Mais quand c'est mal soigné, bien sûr que les premiers signes vont passer, tandis qu'il y a des microbes qui restent, qui vont se cacher quelque part et qui veulent continuer leur destruction à bas bruit. Par exemple, au niveau de la prostate. Et ça peut descendre même au niveau des testicules.
Donc les signes,
voilà,
les signes apparaissent de manière précoce chez l'homme plutôt que chez la femme.
C'est ça.
Voilà. Et il avait également cette question de Alidor qui parlait de la blénorragie. Comment en contact cette maladie, est-ce que ça peut se faire également au contact avec les urines?
Bon, le moyen principal pour la blénorragie, c'est les rapports sexuels. Pourquoi? Parce que ce microbe, il est très fragile. Il est très fragile. Quand vous le mettez dans des conditions qui ne sont pas des conditions biologiques, généralement, il est tué. C'est ainsi qu'il est difficile ou même difficilement imaginable que le gonocoque soit gardé au niveau de la trine. Même si ce sont des toilettes où on peut utiliser le mot de assis, c'est difficile que le gonocoque puisse y persister. Donc, la voie principale, c'est la voie biologique. C'est-à-dire, soit que ça soit par les rapports sexuels, soit que ça soit par la contamination des sécrétions qui contiennent le gonocoque. Notamment, comme vous avez dit à l'introduction, la transmission de mère à enfant. Et ce qui est connu, et qui est connu depuis longtemps, c'est la transmission de la gonococcie au nouveau-né par les voies génitales de la mère. Lorsqu'il traverse les voies génitales de la mère, il entre en contact avec les sécrétions maternelles et ce sont surtout les yeux qui sont les plus touchés. Et c'est comme ça qu'on a la conjonctivite gonococcique chez le nouveau-né. Et pour prévenir ça, on instille toujours quelque chose dans les yeux de l'enfant dès qu'il naît, pour prévenir ça.
Voilà, quels sont les risques liés aux infections sexuellement transmissibles mal soignées? Nous en parlons avec le docteur Aloïs Ngouma. Vous êtes intéressé par le sujet, vous avez des réactions, des questions, même des préoccupations. Appelez-nous au 081-890-63-94.
Votre connexion Internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mails, toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net, à votre service.
Christian Mouzodi nous appelle de Kananga, dans le Kassai occidental, Gauthier Itoko, à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. On commence avec Christian. Christian, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité.
Alors, on vous écoute, Christian.
Ok, en rapport avec le sujet, c'est vraiment intéressant. J'ai deux petites questions, mais avant cela, je peux aussi donner comme contribution ce que j'ai pu remarquer. Après avoir passé un temps dans un laboratoire de la place, j'ai vite remarqué que les personnes porteuses des IST souvent sont elles-mêmes ignorantes de cela, surtout quand c'est vraiment au début là, elles-mêmes ignorent cela et c'est vraiment un grand danger pour la société, ce que j'ai pu remarquer. Et les questions sont les suivantes. La première question, l'invité a parlé des papillomavirus. Je voudrais savoir comme ça cause le cancer du col chez la femme. Et chez l'homme, ça cause spécifiquement quoi? C'est la première question. Et puis la seconde, c'est que les trichomonas vaginales chez la femme et chez l'homme, l'équivalent, c'est quoi? Et quels sont les symptômes de cette maladie chez la femme? À la phase aiguë ou soit chronique, quels sont les symptômes qui pouvant nous aider vraiment à déceler cela? Merci.
Merci Christian. Gauthier Itoko, vous êtes en Mbandaka dans la province de l'Équateur. Bonjour Gauthier.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, docteur.
Ah, allez-y, Gauthier, on vous écoute.
J'ai des petites questions au docteur. La première, j'aimerais savoir les différents modes de transmission de certains traitements transmissibles. La seconde, je voulais que le docteur puisse m'expliquer les méthodes préventives peuvent être utilisés pour lutter contre les infections. C'est ça mes préoccupations.
Merci Gauthier Itoko. Jean-Pierre Kalonet à Lubumbashi dans la province du Katanga. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Jean-Pierre.
Oui, je voulais connaître, j'ai une question posée à notre invité. Si la maman a mis au monde, ça fait 4 jours, elle est allée coucher avec un homme qui a le sida. Ces mamans-là, quel mécanisme qu'on peut utiliser pour que l'enfant-là, qu'il ne soit pas attrapé avec le sida? Je voulais savoir.
Non, si la maman est mise au monde depuis 4 jours après.
Si la maman.
Oui.
A couché, a mis au monde, ça fait 4 jours.
Oui.
Est allé faire l'amour sexuel avec un homme qui a le sida.
Oui.
Quel mécanisme qu'on peut utiliser que cet enfant-là, qu'il ne soit pas attrapé avec le sida? Si la maman était allée coucher avec cet homme-là, sans les préservatifs.
Voilà. Merci, Jean-Pi. Docteur Aloïs Ngouma.
Oui, merci pour le premier orateur. Le papillomavirus se transmet chez la femme et peut poser effectivement le cancer. Parce qu'il a été établi que ce virus, quand il pénètre dans les cellules certaines parties des organes de la femme, notamment le col, c'est surtout le col, mais ça peut occasionner aussi le cancer de la vulve, ça peut occasionner aussi le cancer du vagin, mais le plus souvent, c'est le cancer du col. Et il va transformer par un mécanisme de l'information que le virus va donner aux cellules, et les cellules vont se transformer et vont acquérir donc les caractéristiques de cellules cancéreuses. Alors chez l'homme. Mais chez l'homme, il a été démontré également que ce papillomavirus peut causer le cancer de la verge, donc le cancer du pénis. Bien que ce cancer soit relativement rare, mais les urologues nous ont dit qu'il peut être également l'agent pathogène du cancer de la verge, c'est-à-dire le cancer du pénis. Mais chez les gynécologues, c'est monnaie courante, c'est connu que le papillomavirus est la cause du cancer du col. Alors, le trichomonas vaginalis. Le trichomonas vaginalis a comme symptôme les pertes blanches abondantes. Les pertes blanches abondantes, de mauvaises odeurs. Alors, quand la femme remarque qu'elle a des pertes blanches anormalement abondantes, elle peut consulter pour cela. Au début, bien sûr que ça ne sera pas abondant, mais au fur de temps, ça va devenir abondant. Et le gynécologue, quand il va examiner la femme, il va directement penser à une trichomonas parce que ces pertes blanches ont généralement une couleur entre une couleur blanchâtre et une couleur verdâtre, mais surtout on voit qu'il y a sa mousse. Donc c'est un peu comme si vous avez des petites mousses qui se trouvent mélangées avec ces pertes-là. Alors généralement le gynécologue peut directement penser penser à la trichomonas. Mais ça se confirme par le laboratoire, bien sûr, quand on prend un peu, une petite goutte de ces pertes blanches, on met sur la lame et puis on couvre avec la lamelle, on va regarder au microscope, c'est vite vu, même un néophyte peut voir, parce que ça bouge. Voilà donc les signes qui peuvent amener la femme à consulter et à amener le consultant, donc le médecin, à penser à la trichomonas. Alors, question de Mbanda Kala, je n'ai vraiment rien entendu.
Tout à fait, il s'agit de Gauthier Itoko qui a posé la question de savoir le mode de transmission de ces maladies sexuellement transmissibles. Vous avez déjà dit que c'était généralement par voie sexuelle, mais là également posé la question de savoir des méthodes préventives. Comment on peut se prévenir de ces infections sexuellement transmissibles?
Ah oui, ça c'est une très très bonne question. Ces maladies, comme nous avons dit effectivement, c'est principalement par les rapports sexuels que ça se transmet, mais nous avons dit que ça peut se transmettre de mère à l'enfant, et même par des objets des toilettes, si on utilise ces objets immédiatement, parce que j'ai dit que ce sont des micro-organismes qui sont très fragiles, oui. Mais prenons que la personne vient d'utiliser l'essuie-main qui est encore mouillé, et l'enfant de la maison utilise ça aussi immédiatement. Là, effectivement, on peut avoir une transmission indirecte, mais ce sont des situations tout à fait rares. C'est principalement par les rapports sexuels. Alors, parce que c'est par les rapports sexuels, le moyen de prévention, c'est aussi par les rapports sexuels. C'est d'abord la fidélité, bien entendu. Ça, c'est le premier moyen. Si on ne va pas avec des partenaires occasionnels, donc on s'est prémuni de pouvoir attraper cette pathologie. Maintenant, quand on est contraint d'aller avec des partenaires occasionnels, mais il faut absolument prendre des moyens qui créent la barrière entre les deux organes. C'est-à-dire les deux organes génitaux. L'organe génital mâle et l'organe génital femelle. Pour l'instant, le moyen le plus commun, ce sont les condoms. Nous avons et le condom masculin et le condom féminin. Donc la femme peut porter le condom. Ces organes génitaux vont être isolés. Ces sécrétions génitales vont être isolées. Et le mâle, donc l'homme, ne va pas par son organe génital, être en contact avec ces sécrétions qui sont en fait des porteuses de ces microbes. Il en est de même chez l'homme. L'homme peut porter le condom et ces microbes se trouvent généralement dans son sperme. Alors, si son sperme n'est pas en contact avec les voies génitales de la femme ne va pas attraper la pathologie parce que ça restera enfermé dans le condom. Pourvu que le condom ne se déchire pas. Parce que si le condom se déchire, bien sûr que le sperme va se déverser dans la partie génitale de la femme, donc ça sera de la peine perdue. Donc voilà les moyens de prévention. Et je vous ai dit pour les enfants, oui. L'installation des produits qui peuvent tuer immédiatement ces microbes, hein, c'est le moyen de prévention. Et c'est comme ça que c'est systématique au niveau des maternités. Lorsque l'enfant naît, comme on ne sait pas si la mère est porteuse de ça ou pas, alors on installe à l'enfant. On laisse à l'enfant soit des antibiotiques sous forme de colire, soit le zinc.
Voilà, docteur Aloïs, on revient à vous. Le temps de prendre un auditeur qui est en ligne, Gérard Yinga. Il appelle depuis Isiro, dans la province orientale. Gérard, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute, Gérard.
Oui. Je voulais tout juste participer à cette émission parce que c'était intéressant pour moi. Et ma préoccupation réside sur l'accouchement. Après l'accouchement, il y a une femme qui est mal soignée après cet accouchement, peut aussi occasionner les infections chez cette femme-là. Et aussi les avortements, il y a lieu que ces avortements puissent créer les infections chez la femme à cause de manque de soins. Et ma préoccupation, c'est sur les temps après l'avortement.
Oui.
Quelle est vraiment la période où la femme peut subir le curettage. Donc, cette opération s'est faite.
Gérard, on aimerait bien vous comprendre. C'est-à-dire, une femme qui a fait un avortement et puis vous parlez du curettage. Essayez de bien expliquer, Gérard.
Oui, c'est ça. Donc, mon problème, c'est.
Oui.
Il y a aussi, après l'avortement,
oui.
Les femmes ne sont pas bien soignées.
Oui.
Et la manque de ces soins-là provoque aussi les infections.
Oui.
Et en deuxième lieu, il y a l'avortement. Après l'avortement, il faut que la femme passe par le curettage.
Oui.
Donc, ce curettage-là s'est fait pendant, après combien de temps de cet accouchement ou de cet avortement.
Merci.
C'est ça ma préoccupation.
Merci Gérard. Docteur Aloïs va répondre à votre question. Mais docteur, on aimerait vous rappeler également cette question de Jean-Pi qui voulait savoir une femme qui venait d'accoucher 4 jours après et contracte une relation sexuelle avec un partenaire qui est séropositif. Comment peut faire cette femme pour éviter que l'enfant attrape le sida?
Ok, ça c'est une belle question. D'ailleurs, j'allais y revenir. Oui. Vous faites bien de me le rappeler parce que je l'avais en tête, effectivement, avant de commencer de répondre à notre ami du sirop.
Oui.
Effectivement, c'est vraiment dommage que cette femme puisse agir de cette manière-là parce que, généralement, après l'accouchement, il faut un temps pour reprendre les rapports sexuels. Hein? Le temps, le meilleur, c'est de pouvoir attendre que toutes les logis soient finies et que la plaie cavitaire où s'était inséré le placenta soit guéri et à ce moment-là mettre même les autres plaies au niveau des voies génitales, notamment au niveau du vagin, soit guéri pour que la muqueuse puisse protéger la femme. Mais quand on y va aussi vite, le risque est énorme que les microbes passent par ces plaies-là et entrent dans la circulation générale et causent des maladies, voire même des maladies plus graves comme une infection généralisée au niveau du sang, c'est-à-dire la septicémie. Bon, revenons au cas qui a été posé. Elle attrape le virus du sida. Ça va prendre un temps de latence pour pouvoir entrer dans l'organisme. Ici, bien sûr que le temps de latence sera très court parce que les voies sont tout à fait ouvertes. Et ça va passer au niveau de tout son organisme, donc le virus va arriver au niveau de tout son organisme et même au niveau des seins. Maintenant, elle ne peut pas transmettre à l'enfant, bien sûr, par le contact direct, ça c'est certain, parce que l'enfant est déjà dehors, mais par le contact en allaitant. Donc, si cette femme développe l'infection au virus du sida, elle ne doit pas allaiter. Parce qu'à ce moment-là, il y a le risque que ce virus passe par le lait maternel et qu'atteigne son enfant par l'allaitement. Et généralement, maintenant, c'est internationalement accepté qu'une femme porteuse du virus du sida n'allaite pas.
Voilà, on a compris votre réponse, docteur Aloïs, et on doit faire rapidement, on n'a plus assez de temps. Et qu'est-ce que vous dites à Gérard qui demande une femme qui vient d'avorter, après combien de temps doit se faire un curettage?
Bon, de toutes les façons, une femme qui accouche, et si elle accouche dans des conditions qui ne sont pas très garanties, elle doit avoir la couverture antibiotique immédiatement, voire même avant même qu'elle accouche. Et on continue avec cette couverture antibiotique pendant 5 jours à 10 jours, ça dépend des cas. Sur ce qui concerne l'avortement, mais si la femme a avorté et qu'on a l'impression qu'il y a des débris ovulaires qui restent dans ce qu'on appelle globalement les déchets, ça reste dans la matrice. là également, on curette immédiatement. Et si les conditions ne sont pas garanties, on met la couverture antibiotique même avant de commencer le curettage. Et on continue, bien entendu, comme j'ai dit, avec l'accouchement.
Voilà. Docteur Louis, on va découvrir rapidement ces deux questions qui nous sont parvenues par SMS. Il y a Richard Boutembo qui demande comment savoir que les IST ont été mal soignés. Que faire alors si on n'est pas guéri pendant longtemps alors qu'on a suivi le traitement? Rapidement.
Oui. Quand on a l'impression qu'on a eu l'infection et que l'infection a été mal soignée, et que vous avez encore la possibilité de recueillir les sécrétions. Le meilleur moyen, c'est de recueillir ces sécrétions, d'envoyer au laboratoire de bactériologie. Oui. Le laboratoire de bactériologie va cultiver, va mettre en évidence les microbes, et va mettre ces microbes en contact avec différents antibiotiques. Donc il y a des disques d'antibiotiques, ce qu'on appelle l'antibiogramme. Et on verra exactement l'antibiotique le plus puissant qui tue ce microbe-là. Et on va prescrire alors cet antibiotique le plus puissant qui tue ce microbe à des doses réglementaires.
Ouais, il y a également cette question de Francine Albumbashi qui écrit ceci: j'ai la vaginite, j'ai pris plusieurs antibiotiques sans succès, que faire maintenant?
Et là, c'est également la même chose comme je venais de dire. Oui. Si vous avez l'impression qu'on a pris des antibiotiques de manière tout à fait empirique, il faut absolument qu'on fasse la culture. Alors, on fait la culture de ces sécrétions et on va mettre en évidence l'antibiotique qui est le plus indiqué pour soigner cette maladie-là. Enfin, alors, on peut soigner par voie générale et par voie locale. C'est-à-dire, on prend les comprimés ou les injections et on prend également les produits que l'on peut mettre dans le vagin.
Voilà, docteur Aloïs Ngouma, vous êtes gynécologue à l'Université de Kinshasa. Nous vous remercions d'avoir répondu aux préoccupations de nos auditeurs et notamment par rapport à ce sujet, les infections sexuellement transmissibles mal soignées. Quels sont les risques liés à ces maladies? Merci beaucoup, docteur Aloïs. À la prochaine.
Je vous en prie.